Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Margot. Enfin, alors, en toute honnêteté, je vais vous dire, c'est avec plaisir, mais c'est rare que je ressente ça parce qu'il y a aussi un petit inconfort. Pourquoi? Parce que Margot, bah, elle a réussi plein de choses et elle a une personnalité qui me challenge. Parce que, en toute honnêteté, je me suis posé la question, qu'est-ce qui me challenge à l'idée d'interviewer Margot? Parce qu'elle a des choses que j'aimerais incarner et que un niveau basique, ben, que j'assume pas et que j'aime pas. Par exemple, ton franc-parler, le fait que tu emploies des gros mots, que tu dises vraiment ce que tu penses, ton courage. Et je pense que ça, on en a tous besoin chez les coachs parce qu'on apprend à être à l'écoute, à être bienveillant, à être doux, et c'est des bonnes choses. Mais ce que je veux qu'on retire aussi de cette session avec toi, c'est s'imprégner un peu de ton courage, ton franc-parler, d'assumer qui tu es, d'assumer les rêves. Je pense que c'est là où t'es excellente. Donc, Margot, bienvenue. Est-ce que tu veux te présenter quand même brièvement ce que tu fais aujourd'hui? Quelles ont été tes principales étapes jusqu'à aujourd'hui? Et puis après, j'ai quelques questions pour ça.
Moi, je suis toujours. Déjà, merci. J'ai bien aimé ton intro. Je savais pas que je te challengeais sur ces points, donc c'est cool. Qui je suis? Moi, c'est difficile à chaque fois de répondre à ça. Je sais qu'il faut avoir, tu sais, normalement un pitch et puis une phrase de présentation, mais je dois en avoir une, mais j'oublie tout le temps.
Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je crois que tu es dans le web 3.0 en tout cas.
Moi, ce que je fais, en tout cas depuis des années, si on peut résumer en une phrase, ce qui est hyper basique, c'est que moi, je crée des sociétés et je les fais fructifier. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais. Donc je crée des sociétés et puis elles font plein d'argent, quoi. Basiquement, c'est là où je suis très bonne. Et donc c'est ça mon quotidien, là où je suis. Ouais.
Ben, tu vois, juste là, genre, comment Margot, elle assume comme ça qu'elle dit qu'elle fait une société pour gagner plein d'argent. Oh, mais
Ah
attends, t'as pas peur qu'on pense que t'es une mauvaise personne et que t'es cupide? Et que voilà, t'es juste superficielle. Tu penses pas à ça? Tu te dis pas ça?
non, jamais.
C'est
En fait,
génial.
non, tu vois,
Pourquoi? Pourquoi?
j'ai
Non, mais ça m'intéresse, vraiment, ça m'intéresse parce
ouais.
que moi, tu vois, je suis un people pleaser, j'aime plaire aux gens, mais j'arriverai pas à
Ah.
faire ça, tu vois.
Ah ouais, mais déjà, en fait, parce que c'est vrai, donc.
Bon, déjà.
C'est ça que je fais en vérité. Donc, je crée des entreprises et je les fais fructifier. Donc,
T'as pas peur du regard des autres, de ce que les gens pensent de toi?
si, je suis humaine, bien sûr. Tu vois, si tu viens dans la rue, tu me dis t'es trop moche, bah, bien sûr, ça va me dire quoi? What the fuck? Tu vois, si, bien sûr, c'est je suis humaine, donc
Mais j'ai
je.
aussi compris que tu te crées aussi un environnement qui correspond à ce que tu veux. Tu es en Suisse en ce moment?
Ouais.
Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles tu es en Suisse ou il y a d'autres raisons d'optimisation
Ah,
aussi?
pas du tout. Alors en Suisse, je sais qu'il y a plein de gens, ils pensent que c'est un paradis fiscal, mais tu payes énormément d'impôts, en tout cas où j'habite. Je crois que j'habite dans l'une des villes de Suisse avec le plus d'impôts, parce qu'en Suisse, c'est un peu complexe le système d'imposition, mais en gros, en perso, tu payes ton impôt sur le revenu perso, communal, enfin bref. Et là où j'habite, c'est une des villes de Suisse où tu payes le plus d'impôts sur le revenu. Donc, non, rien à voir. Sachant qu'en plus, j'habitais à Malte, alors quasi pas d'impôts à Malte. Alors, je serais restée à Malte si c'était pour les impôts. Des fois, je me dis, oh, j'aurais dû rester vraiment quand je vois mes impôts qui partent tous les mois. Je me dis, ah oh, merde, j'aurais dû rester. Non, non, je suis venue
Mais
en Suisse.
t'as toujours été comme ça. Moi, je te connais quoi de loin, en tout cas, depuis 10 ans, parce qu'on a évolué sur le web.
Ouais.
Je connaissais une version de Margot un peu plus réfléchie, calculée que depuis quelques années, non?
Tu penses que tu pas réfléchi et calculé?
Moi, t'es beaucoup plus spontané qu'à une époque, j'ai envie de dire. En tout cas, tu l'assumes plus, ça se
Ah
voit
oui.
plus. Il y a des gros mots dans toutes tes stories, tes reels. Tu t'empêches pas de dire ce que tu as dans la tête, quoi.
Oui, alors ça, c'est vrai parce que au début, moi, j'étais très timide, enfin, très introvertie. Ouais, donc après, quand j'ai fait des vidéos, c'était déjà très difficile pour moi de m'exprimer. Pour moi, c'était en public, faire une vidéo, c'était en public, même si genre il y avait que 100 personnes qui regardaient au mieux ma vidéo. Donc pour moi, c'était difficile de m'exprimer. Je faisais beaucoup d'efforts pour m'exprimer. Donc c'est clair que j'étais beaucoup moins spontanée, parce que tu fais déjà des efforts pour parler. Donc bon, pour la spontanéité, on va repasser. Donc, c'est sûr que tu voyais moins ma spontanéité dans mes vidéos, parce que je devais vraiment faire des efforts. Maintenant, je suis plus du tout timide en vidéo. Je suis toujours quelqu'un de réservé.
Okay.
De prime abord, c'est-à-dire au début, quand je rencontre des amis ou des connaissances, bah, je suis toujours un peu comme ça, en retrait. Mais voilà, passer la première ou deuxième fois, c'est clair que maintenant, je suis plus à l'aise plus vite. Mais j'ai toujours un peu ce côté un peu réservé. Des fois, il y a des gens, tu vois, je parle pas trop. Alors, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a?
Non, okay.
Comme ça. Donc, ouais.
Alors, du coup, moi, j'ai envie d'un peu de disséquer, je mets entre guillemets, ton cerveau. Qu'est-ce qui fait que bah, tu as autant de succès avec toutes ces entreprises et que tu as fait des millions et des millions c'est quoi, tu penses, entre toi et la plupart des gens?
Alors, je pense que j'ai rien de plus que les gens. Moi, j'ai une croyance que c'est Dieu qui te donne ta parnassa, c'est-à-dire ton... Comment Dieu qui te donne l'argent que tu dois recevoir, en fait. Donc okay. Ça, c'est ma croyance, c'est très, très personnel. Tu appelles ça l'univers, enfin bref, chacun fait comme il veut. C'est juste ça, c'est ma croyance. Donc moi, ce que je dois juste faire, entre guillemets, juste, ce que je dois faire dans ce monde, c'est faire des efforts pour que ce que Dieu il m'a attribué me parvienne. Mais que je fasse, si tu veux, mes efforts ne garantissent pas un résultat. Je dois juste faire de l'effort et puis ce qui m'est attribué vient. Pour moi, apparemment, il y a jusqu'ici, je reçois bien. Mais tu sais, moi, je suis du jour au lendemain, tout peut être pris. Hein, c'est pas.
Ouais.
Donc déjà, j'ai pas un attachement très fort à l'argent. Et les gens qui me connaissent pas personnellement, qui connaissent le Margot Klein à travers un écran, ils voient pas ça. Tu vois, ils pensent que j'adore l'argent, etc. Mais du coup, c'est comme si je m'en fous un petit peu de l'argent. C'est pas comme un succès que moi j'ai, tu vois. Je sais que c'est pas, je sais pas comment expliquer. Donc j'ai ce truc où je fais beaucoup d'efforts parce que je sais que je dois faire des efforts. Après, ce que je reçois, de toute façon, j'ai pas de pouvoir dessus. Alors si je reçois beaucoup, bah cool, je m'achète plus de trucs. Si je reçois pas beaucoup, bah cool, je m'achète moins de trucs, tu vois. Mais
c'est passionnant de voir quelqu'un qui attache peu d'importance à l'argent et qui finalement on gagne beaucoup et
c'est peut-être ça. Alors c'est peut-être ça en fait, je m'en fous franchement.
Non mais c'est top parce que justement dans la culture populaire on a l'image des gens qui aiment l'argent, qui pensent qu'à ça et qui du coup en gagnent beaucoup, et ça je trouve ça intéressant.
Je pense jamais à l'argent, hein. Ouais. Jamais. Moi tu sais, tous les conseils qu'ils donnent tous là sur TikTok, il faut regarder son compte tous les jours, noter sur un carnet combien tu dépenses, je sais pas quoi là.
Ah.
Toujours penser à l'argent, je sais pas quoi. Moi, je fais pas tout ça. J'ai jamais fait ça. Je ferai jamais ça. L'argent, je trouve que c'est vraiment quelque chose de pas du tout important dans la vie. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est les émotions et les croyances qu'on a cristallisées sur le support argent. Tu vois, et là, waouh, il y a beaucoup de bullshit et il y a beaucoup de choses très très problématique qu'on est venu coller sur l'argent. Et je trouve que là où c'est intéressant et dramatique, c'est que c'est un outil de contrôle, tu vois, et de manipulation dans beaucoup de cas. Donc c'est ça qui moi m'intéresse, parce que quand j'ai aidé les entrepreneurs, bah bien sûr quand t'es entrepreneur tu parles d'argent, enfin je veux dire, il te faut de l'argent pour un fonds de roulement, il te faut de l'argent pour investir, développer, payer tes gens, enfin bref. Voilà. Donc, on en parle parce que souvent, c'est le chef d'entreprise qui bloque l'argent, qui bloque sa société, qui bloque la croissance de sa société. Donc, c'est clair que c'est un sujet dont on parle 80% du temps. Mais c'est pas tellement, tu vois, sur l'outil argent, c'est plutôt sur tout ce qui vient, le bagage argent, tu vois. Et là, sur le bagage argent, oui, là, je suis très intéressée parce que ça touche finalement plus que l'humain et son fonctionnement. Que l'argent, en fait. Tu vois, il y a des gens qui vont cristalliser sur le couple, mais c'est quand même beaucoup, la majorité d'entre nous, sur l'argent. On va venir, venir beaucoup mettre de charges émotionnelles sur l'argent. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Après, moi, OK, là, j'habite dans une super maison avec une super vue, j'ai des super voitures, très bien. Enfin, tu vois, j'étais millionnaire et je j'avais pas de voiture pendant 5 ans. J'avais des vieux habits. Je pourrais être demain pauvre, je m'en fous complètement.
Et alors, du coup, c'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu crées ces entreprises? Pourquoi tu veux faire de l'argent? Aide-nous à comprendre ce qui est évident pour toi. C'est quoi qui te motive le matin quand tu te réveilles ou quand tu lances une nouvelle société? C'est quoi
Des
le
fois, je suis pas toujours motivée. Enfin, t'sais, je sais qu'il y a des gens, ils me disent, ouais, mais toi, on dirait tout est facile pour toi, t'es une machine. Je sais pas, il y a une espèce de mythe, tu vois, autour de Margot Klein, la machine. Je vois ça, mais t'sais, des matins, je suis pas motivée, quoi. Enfin, et alors, enfin, je suis pas obligée d'être tout le temps motivée,
Ouais,
donc.
tu restes en sweat et t'es pas obligé de. Ouais,
Complètement,
alors,
enfin.
c'est quoi qui te. Qui... C'est quoi ton pourquoi derrière l'action malgré le manque de
Bah,
motivation?
c'est vraiment, c'est ce que je disais, c'est vraiment, mais après, c'est chacun, tu vois, sa croyance. Moi, ma croyance, c'est que chaque être humain sur Terre, il a une unicité, un don, j'appelle ça, moi, le super pouvoir, mais bon, c'est un truc qui sait faire, qui est un don, si tu veux. Un talent, enfin, bref. Et qu'on a chacun un rôle sur cette Terre, quoi. Du coup, bah, en fait, c'est ça qui me motive. Moi, je vois mon don. Je vois que mon don, bah, c'est de vraiment avoir une vision, c'est vraiment de savoir un peu ce qui va se passer dans le futur, les tendances, les grands événements de notre société. Ça, je vois, c'est très clair pour moi. J'ai regardé encore une vidéo, il y a quelqu'un qui m'a envoyé sur Instagram une vidéo de moi, de octobre 2022, où je dis dans la vidéo, l'économie va s'effondrer, dont les banques, en mars 2023. Je me dis, wow. Tu vois, je suis de plus en plus précise, je vois de plus en plus, héritage.io a été créé sur cette vision un peu. Donc, je vois ce qui va se passer. C'est un peu bizarre dit comme ça. C'est pas paranormal, c'est juste de l'analyse, des données et un peu d'intuition aussi, tu vois. Je pense que la majorité des analystes et des économistes pourraient très bien prévoir et doivent certainement prévoir la même chose, hein, tu vois, je suis pas. Mais donc, comme je me dis, j'ai cette facilité à voir ça, j'ai cette facilité à créer, j'ai cette facilité à attirer à moi les gens, les projets et puis l'argent d'une certaine façon. Donc, bah, pourquoi je le fais? Enfin, c'est mon rôle de faire ça. Il y a des gens, leur don, c'est d'aider d'autres gens à autre chose, d'éduquer des gens, de se focaliser sur le couple, d'éduquer les enfants. On n'a pas tous dans notre société le don d'attirer l'argent, tu vois. Moi, j'ai ce don-là, c'est une facilité pour moi. Du coup, bah, je peux donner, faire profiter d'autres gens de mon don à moi, tu vois. Quand je paye un coach, bah, lui, il m'aide à me comprendre à moi, tu vois. Il me met son don à disposition. Donc, c'est
Comment
pareil.
tu t'en es rendu compte de ce don? Est-ce que tu t'aurais le souvenir d'un moment, un événement, ou c'est ça a toujours été un peu là?
Non, je dirais, c'est quand j'ai commencé mon premier business, puis je voyais, tu vois, je pensais en fait que tous les entrepreneurs avaient ça. Tu vois, moi je me suis dit, ah ouais, tout le monde. Et puis je commençais à parler avec d'autres entrepreneurs, et puis je leur disais, moi j'étais dans le fitness, mon premier marché c'était le fitness. Tu vois, le marché du fitness. Et du coup, je disais, ouais, c'est trop la mode, mais dans 2, 3 ans, ce sera fini le fitness, tu vois, il faudra passer à autre chose. Puis tout le monde me disait, non, le fitness, ça va rester 10 ans, c'est trop bête. Et là, je disais, mais ils voient pas, tu vois. Donc déjà, je voyais que les autres voyaient pas. Alors je me suis dit, mais mince, tu vois, est-ce qu'ils sont bêtes? Est-ce qu'ils sont pas bons entrepreneurs? Et après, j'ai vu qu'en fait, non, personne voyait. Et moi, ça s'est fait un peu au fil de l'eau comme ça. Après, je voyais pas que c'était plutôt des visions. Je me suis dit, c'était plutôt des ressentis. Puis je prêtais pas attention au début. Et après, plein de choses que je me suis dit que ça allait se passer, se passaient. Là, je me suis dit,
Oui, parce que moi, de ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que la plupart des entrepreneurs, on est des passionnés de notre thématique. Alors toi, tu es passionné d'entrepreneuriat, donc tu vas prendre du recul et tu vas regarder à un autre niveau. C'est pas que tu es meilleur, c'est juste que ta passion, elle est à un autre niveau, donc forcément, tu vois autre chose.
Ouais, c'est ça, exactement. Ma passion, elle est, voilà, à un autre niveau. C'est exactement ça. Moi, je pourrais racheter, d'ailleurs, je rachète des sociétés, on rachète des sociétés dans plein de domaines.
Okay.
Je m'en fous du domaine, en fait. Il y a des domaines que moi, je ne veux pas, par choix et valeur. Ou... Voilà. Mais quand je vois qu'une société, elle a du potentiel, qu'elle soit dans le nettoyage ou la chirurgie, je m'en fous. Hein.
Et du coup, tu disais que parfois, un peu, les gens pouvaient t'idéaliser. Raconte-nous un peu, est-ce que tu as envie de nous partager tes plus gros échecs de ces dernières années? Ou allez, on va dire, quels sont les échecs qui t'ont apporté le plus ou qui ont été le plus chamboulants dans ton parcours? Est-ce que tu aurais quelque chose en tête?
Mais moi, j'ai du mal avec ça parce que...
Tu vois pas ça comme des échecs?
Ouais, en fait, j'ai du mal à voir. C'est peut-être un défaut que j'ai, tu vois, mais je vois pas où j'ai des échecs. Par contre, je vois où je fais des erreurs. Ouais. Et c'est quoi la différence pour moi? Un échec, tu vois, par exemple, si je fais un échec, c'est je perds tout, puis je retourne à McDo. Tu vois, parce que je travaille à McDo. Là, oui, ça serait un échec, tu vois, où je... 20 ans après, tu es toujours au même point. Ah ouais, là, je me dis, oui, là, ce serait un échec, tu vois. Clair, précis, la merde, tu vois. Mais pour moi, les erreurs... Donc, pour moi, j'évolue toujours. C'est pour ça que j'ai pas d'échec. Par contre, je fais plein d'erreurs, tu vois.
Et les comment erreurs... tu réagis quand tu fais des erreurs? Alors, ça m'intéresse.
Je déteste. J'aime pas du tout.
Non. Okay.
Donc, je réagis pas bien, alors. Je me dis pas gratitude sur ton échec. Pas du tout. Je me dis, t'es une grosse merde, Margot, là. T'es nulle à chier. T'aurais jamais dû faire cette erreur. Mais vraiment, meuf, si tu continues à faire ces erreurs-là, mais va te noyer dans le lac. Donc, je déteste.
Et du coup, il se passe quoi après? Parce que tu restes pas sur ça. Il y a le jour
suivant, ça se passe pas. Là, je me juge, je râle, je culpabilise. Ça dure un jour, quoi.
Ok.
Peut-être deux, tu vois, si c'est vraiment une grosse erreur.
C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, mon réflexe en tant que coach et t'es coach aussi, quoi, même si tu le pratiques certainement moins aujourd'hui. Ça aurait été de ouais, bah justement vois la gratitude, vois l'opportunité qu'il y a derrière, sauf que toi tu assumes pleinement tes émotions et tu vas à fond dedans et comme ça quand tu tournes la page tu tournes vraiment la page, c'est ce que je comprends.
C'est ça. Du coup moi j'ai pas, oui, idéalement peut-être quand j'aurai, je sais pas moi, 50 ans ou je sais pas, je dirais oh gratitude, mais je suis là, c'est pas ça que je ressens. Moi, je me dis, t'es nul à chier. Franchement, c'est au bout de 10 ans d'entrepreneuriat, tu sais, tu fais toujours cette erreur, meuf. Vas-y, on n'est pas sorti de l'auberge, tu vois. Donc, bon, voilà, c'est ça que je ressens. Après, je passe vite à autre. Comme j'assume, comme mes émotions, elles arrivent, je les accueille. Même quand je me juge, je me dis, ok, bon, c'est ok, juge-toi, puis ça ira mieux plus tard, tu vois. Bah ouais, après, ça dure un jour et après, je me dis, bon, comment on trouve une solution, tu vois?
En fait, c'est aussi une façon de t'aimer, tu vois, c'est ce que je comprends, c'est d'assumer tes émotions, c'est de ne pas juger tes erreurs, finalement, c'est juste de les accepter, alors que si j'essaie de faire semblant de ne pas vivre mes émotions, je m'assume pas et je m'aime peut-être pas assez, quoi.
Alors, c'est sûr que moi, je m'aime... suffisamment, quoi, tu vois. Il y a des moments, il y a des parties de ma vie où non, je m'aime pas encore, tu vois, comme je voudrais. Mais globalement, c'est vrai que j'ai un bon niveau d'amour de moi. Après, je l'ai beaucoup travaillé parce que c'était vraiment pas le cas. Je l'ai beaucoup appris avec des coachs, hein, concrètement. Mais l'avantage, c'est que maintenant, c'est solide, tu vois. Je vais pas me détester. Oui, je m'aime assez, j'ai assez confiance en moi, même si je suis humaine, j'ai des doutes et tout, mais c'est vrai que j'ai quand même une bonne base d'amour maintenant, après toutes ces années, heureusement d'ailleurs, parce que sinon j'aurais dépensé tout cet argent coaching pour rien, mais maintenant c'est bon, ouais.
Ah ben justement, tu dirais quoi aux coachs qui nous écoutent et qui nous écoutent, c'est quoi les fondamentaux, les piliers qu'un coach doit avoir pour pouvoir être heureux et développer son business, s'aimer, qu'est-ce que tu dirais d'autre?
Je pense que c'est pour tout le monde pareil, mais peut-être le coach, il a une difficulté supplémentaire, c'est qu'il va tout mentaliser. Tu vois. Donc, il va dire, ah, mais là, comme tu disais, là, je ne devrais pas culpabiliser, je dois être en gratitude. Mais du coup, en fait, tu te coupes de toi parce que c'est faux. Il y a des moments où... Moi je conduis, En Suisse, ça arrive assez rarement, mais quand il y a quelqu'un qui te coupe la route ou qui... Bah oui, des fois, j'insulte la meuf complètement débilement. Ouais, grosse connasse, tu vois, dans ta voiture. Tu sais que c'est pas intelligent, mais tu le fais. Donc, il vaut mieux faire des choses pas intelligentes, mais les faire, puis voir que c'est pas intelligent, et ensuite se dire, OK, bon, bah, je peux peut-être en parler avec ma thérapeute ou mon coach à la prochaine session, plutôt que faire genre, oh, gratitude de m'avoir fait de patience. J'ai appris que je devrais être plus patiente. Non, non, c'est pas sincère. Donc, c'est vraiment OK, tu connais les outils, mais c'est OK de pas pouvoir les utiliser tout le temps, en fait. C'est OK des fois d'avoir envie d'insulter quelqu'un, c'est OK de t'énerver, c'est OK d'être triste. Tu connais les outils, tu les as, mais t'as pas toujours les ressources pour les utiliser. Et il vaut mieux bah, être con, se juger et insulter quelqu'un bêtement plutôt que faire genre que tu maîtrises l'outil alors que tu ne le maîtrises pas du tout. Et ça tue. Et il y a tous les coachs, franchement, 90% des coachs, ils font semblant d'utiliser les outils. Et ben, ça loupe pas, tu es malheureux et tu gagnes pas un centime. Ou alors, quand tu gagnes de l'argent, tes clients, tu les détestes. Donc, c'est pas viable le truc. Donc, c'est juste ça en fait. C'est OK, j'ai les outils, mais il y a des fois, je peux pas les utiliser, quoi. Enfin, j'y arrive pas.
Cool. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager au coach avant de passer à un autre point? Qu'est-ce que tu dirais au coach pour
Se faire
développer leur
coacher
business?
aussi. Il faut qu'il fasse. Ouais, c'est obligatoire. C'est trop dur d'être coach. Franchement, c'est d'avoir quelqu'un qui te coach ou qui te supervise, t'appelles ça comme tu veux. À qui tu peux aller un peu te décharger, trouver du conseil, parler des cas difficiles, des clients que t'arrives pas trop à faire avancer, des choses comme ça. Parce que souvent, quand on est coach, je vois beaucoup ça en francophonie, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas trop. Mais là, tu vois, j'ai un coach américain, je vois, lui, il n'a pas ça. Mais en France, c'est pas trop bien vu quand t'es coach et que tu te fais coacher. Mais j'ai jamais compris, tu vois.
Bah ouais. Non, c'est dingue. Non, bah justement, moi je quelquefois, tu vois, avec mon audience bah, de coach, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils ne veulent pas être coachés. Et il y a des coachs, alors j'espère que personne se sentira mal d'entendre ça, mais il y a des coachs qui pensent que le coaching, c'est pour des gens moins avancés, plus faibles, et pas pour les gens plus. Je pense que en fait, il n'y a jamais de fin. On a toujours besoin de coaching, en fait.
Oui, moi j'ai toujours un coach, hein, tout le temps. En fait. Et même sur plusieurs, enfin plusieurs coachs sur plusieurs sujets souvent. Donc,
Cool.
je pense qu'il y avait un truc, une cliente, elle m'a dit, ouais, mais si je dis aux gens que je me fais coacher par toi, mes clientes, elles vont vouloir venir chez toi. C'est peut-être ça, tu vois. Et je lui ai dit, ah ok, c'est intéressant. Tu vois.
Là, je peux comprendre, je peux
C'est peut-être ça,
comprendre.
tu vois.
Parle-moi un peu de ton quotidien d'entrepreneur. Donc, tu lances une nouvelle, un nouveau projet là. T'es associé dans plusieurs boîtes. C'est quoi la vie d'une serial entrepreneur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as quoi? Ton quotidien, il ressemble à quoi? T'enchaînes les réunions? Ça ressemble à quoi?
Alors, il varie. Déjà, j'ai pas de semaine. Enfin, j'ai pas de. Il y a juste un jour que je tiens à chaque fois, qui est du vendredi soir au samedi soir, où là, je travaille pas. Mais je peux très bien travailler dimanche, le lundi, prendre un jour off le mercredi. Enfin, j'ai pas de. Voilà, de jour déjà.
C'est-à-dire que tu t'impliques dans des entreprises d'une façon où t'es pas
Dans l'opérationnel, ouais.
ouais, dans l'opérationnel et dépendante, quoi.
Ouais. Alors, non, non. Moi, mon rôle, c'est. Alors, si on veut aller tout en haut, moi, mon rôle, c'est. Je sais pas comment on le dirait en français. En anglais, on dit président du board, président du conseil, comme un président
Ouais, je
du
pense.
conseil d'administration.
Ouais.
Mon coach, il appelle ça le rôle de queen ou de king. Je trouve ça assez parlant, tu vois, ça met une image dessus. Donc moi, mon rôle, c'est, et c'est super difficile, souvent les gens, moi-même, j'avais sous-estimé ce rôle. En gros, tu dois donner la vision à toutes tes entreprises, à toutes tes équipes, et tu dois être sûr que cette vision, elle est mise en opération et en application de la bonne manière, que les gens tiennent les deadlines et que tes directeurs ou tes gens qui pilote ça, soit sur la bonne route, quoi.
Ok, comment tu fais ça? Du coup, tu traques, il y a des tableaux de bord.
Je fais pas ça. Ça, c'est les gens qui veulent faire ça. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je fais des réunions, en fait. Donc, je fais des réunions, je parle à des gens. Concrètement, c'est ça. Et je m'assure que les engagements ils soient respectés. Donc, moi, je manage pas trop les gens, je manage les engagements.
Donc, en fait, je pas mal à l'intuition, c'est ce que j'ai l'impression ou pas?
Oui et non. Je suis très chiante et très exigeante sur les engagements. Donc, les gens qui travaillent avec moi, ils savent que il faut prendre des engagements et qu'on se dise, voilà, je fais ça pour temps. Je fais ça pour le 18 avril. Et qu'ils doivent, chaque semaine, donner un avancement vers cet objectif et que cette date doit être respectée. Et que si elle n'est pas respectée, ils doivent prendre les devants et dire que ce ne sera pas respecté. Quand est-ce que ça le sera? Donc ça, moi, je suis hyper chiante sur ça. Très, très exigeante sur ça. Donc ça veut dire que ça demande des gens très responsables et très autonomes. Donc c'est pas tout le monde. Donc, déjà, c'est compliqué hein, de travailler avec moi. Ça, c'est sûr. Par contre, les gens qui sont responsables autonomes, alors eux, ils kiffent, ils vivent leur meilleure vie. Alors eux, ils veulent jamais partir, ils restent, ils sont libres, ils ont leur horaire, leur machin, ils adorent. Mais c'est pas tout le monde, je vois que c'est pas tout le monde. Donc, après, par contre, ben, les entreprises, c'est des humains. Et du coup, les humains, moi, je suis assez bonne sur les humains. Donc ça, bah, c'est peut-être ce que tu appelles l'intuition, où là, bah, je dois parler à la personne, où je dois avoir un contexte. Par exemple, il y a quelqu'un dans mon entreprise, un de mes associés, qui va venir et qui va me dire, voilà, j'ai un problème avec lui. Là, il s'est passé ça, j'arrive pas à débloquer cette situation. Bah, moi, je vais lui dire, ok, tu fais ça, ça et ça. Est-ce que tu as compris pourquoi? Oui, ok, cool. T'as pas compris? Non, ok, regarde, pour ça. Ah, ok. Donc, en fait, j'ai une rapidité de débloquer des situations très rapidement, juste en parlant avec des gens.
Ah, c'est passionnant. Et du coup, en fait, tu as toujours été comme ça aussi par rapport à toi. C'est que tu te fixes des objectifs, des engagements et tu es du genre à tout donner pour l'atteindre. Et sinon, tu l'anticipes, mais tu n'es pas du genre à te raconter d'excuses. Oh, j'avais pas pu. Voilà, ouais, c'est ça que je comprends aussi parce que ce que tu as bâti ne s'est pas fait juste avec des envies et un peu d'action.
Ouais, non, pas du tout. Et même les envies, il faut faire attention parce que je sais que c'est un peu la mode en ce moment. Il faut suivre ses envies et tout. Faut faire attention parce qu'il y a une différence entre vouloir, donc notre volonté, je veux, et j'ai envie. C'est subtil, hein, mais j'ai envie, c'est enfantin. Ça manque de maturité, quoi. Je veux. Ok, là il y a une assise un peu plus solide.
Décision.
Je veux maigrir. Bon bah tu sais qu'il y a des fois, tu n'auras pas envie de manger des brocolis quoi. Mais tu veux maigrir. Donc tu sais que bah voilà, je veux maigrir. Bah oui, je vais devoir aller au sport et je vais devoir manger moins. C'est comme ça. Par contre, si tu dis bah j'ai envie de manger du chocolat tous les jours, chouette. Mais tu vois, ça va pas être super bon pour toi. Donc, il faut faire attention. Donc, moi, je suis assez bonne à arriver à équilibrer mes envies et ma volonté. Parce que si tu es que dans la volonté, bah, tu n'es pas heureux, parce que tu n'écoutes pas tes envies. Mais si tu n'écoutes que tes envies, bah, tu ne construis rien. Donc, moi, je suis assez bonne à balancer les deux, tu vois. On dit, voilà, j'ai une forte volonté, mais je mets aussi mes envies. Et c'est ça qui fait la longévité et que je construis beaucoup en même temps.
Ok, et au milieu de ça, tu mets de l'authenticité parce que en fait, c'est ça qui est hyper difficile. Nos clients, par exemple, ils savent quoi faire pour développer leur business, mais ils ont pas forcément envie de le faire. Et toi, j'ai l'impression que tu t'es toujours autorisé, c'est ce que j'entendais aussi sur Instagram, c'est ce que tu avais publié, tu t'autorisais à aller attendre vers tes rêves. Tu laisses peut-être tes envies, ta gratification immédiate de côté de temps en temps, mais par contre, tu perds pas de vue tes rêves et tes ambitions. C'est ça que je comprends, c'est que ta volonté d'atteindre ton rêve, elle est là, elle est ferme, et tu es prêt à abandonner les petites envies pour l'atteindre parce que ce plaisir-là est plus grand, c'est ça.
Oui, mais c'est pas ça qui bloque les gens. Okay. J'ai remarqué que ce qui bloque les gens, enfin ce que tu dis là, tes clients, c'est que souvent, on n'arrive pas à se mettre en action parce qu'on a une peur ou un sentiment d'impuissance. Et en fait, j'ai remarqué que les gens, soit ils pensent qu'ils peuvent rien faire à la situation, que quoi qu'ils fassent, bah, ce sera nul de toute façon, ou ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Donc, un sentiment d'impuissance. En plus, avec le Covid, ça a mis ce sentiment à tout le monde parce que en gros, y a un gars qui décide que tu restes chez toi puis tu peux rien dire. C'était fort l'impuissance, le Covid. On était tous dans l'impuissance. Donc, ça a réveillé ça chez tout le monde. Puis, deuxième chose, c'est que les gens, ils ont peur de perdre. Et ça, c'est une peur, en plus, c'est une peur archaïque, c'est une peur humaine, c'est une peur dans notre corps génétique, c'est là depuis. Voilà. Et moi, j'ai cette peur de perdre parce que je suis humaine, hein, donc je l'ai, mais j'arrive à la dépasser. Donc, parce que je ne suis pas attachée aux choses. C'est ça, tu vois, on en revient à ce que je disais au début. Là, on développe des projets, c'est des trucs où là, j'ai visité une maison, la maison, avec le prix, c'est fou, tu vois. Mais en gros, si je veux cette maison, et je la veux, donc si je veux cette maison, si je veux ce business, si je veux atteindre cet objectif, ben en fait, quand tu veux atteindre des objectifs vraiment gros, mais chacun à son niveau. Je veux dire, moi, quand je gagnais 2 000, gagner 10 000, c'était un objectif impossible pour moi. C'était... Donc, chacun à son niveau, on a toujours des objectifs qui nous paraissent parfois, tu vois, très gros. Et en fait, pour atteindre ces objectifs très gros, tu dois accepter de tout perdre ce que tu as aujourd'hui. Si tu n'es pas prêt à accepter de tout perdre, tu ne peux pas tout gagner. Et souvent, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est on dit non, je ne suis pas prêt à tout perdre, je suis prêt à perdre ces 3 choses, mais je veux garder ces 2 choses. Mais du coup, tu gagnes que 2. Donc, on est toujours frustré. On veut toujours les 3 autres choses qui manquent, tu vois. Mais moi, je suis toujours prête à tout perdre. Et pourtant, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut continuer pour moi à se faire coacher parce que avant, j'avais rien. Donc, c'est pas grave. J'ai rien à perdre, tu vois. Maintenant, j'ai genre la plus belle maison de mon villa, enfin de Montreux, les 2 plus belles voitures que je voulais, des montres incroyables, un couple incroyable. Ah oui, là, je me dis, ah oui, t'as des trucs à perdre que tu aimes, tu vois. Donc, il faut arriver à se dire, OK, je les kiffe et être honnête. Est-ce que je suis prête à perdre ça? Oui ou non? Non? Bah, alors, je vise pas plus haut. Je reste là.
Ouais, c'est passionnant. C'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas fait pour tout le monde.
C'est peut-être fait pour tout le monde, mais pas tous les, en fait, l'entrepreneuriat, là, tu sais, on parle, moi, je sais que le chiffre d'affaires que je fais, pour moi, c'est pas bien, c'est nul, mais ça représente 0,01%. Et pour moi, c'est nul. Donc, il faut arriver à... Même, tu vois, les gens qui gagnent 10 000 par mois, il faut savoir, 10 000 par mois en France, tu fais déjà partie des 1%. Donc, toi, tu dis, c'est nul, ouais. Mais si tu as l'audace de vouloir être parmi les 1%, il va falloir faire ce que 99% des gens ne font pas. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Déjà, 1%, t'imagines 1% de la France quand tu gagnes 10 000. Waouh! Je sais pas, tu vois, les gens, ils réalisent pas, en fait. Donc, t'es déjà à haut niveau. Tu sais, comme si tu dis, je veux gagner une médaille d'or au JO. Bah, vas-y. Tu crois que tu peux? Moi, je sais que je peux pas gagner une médaille d'or au JO. Hein. J'essaierai même pas. C'est mort, c'est dead. Je peux rien faire dans aucune discipline. C'est cool. Tu vois, donc, bah, je vais pas m'amuser à le faire. Donc, des fois, on a des envies de réussite, mais qui sont déjà à très haut niveau. Très haut niveau, ça veut dire une vie à de très haut niveau. Et c'est une vie de très haut niveau. Ça, c'est pas fait pour tout le monde, par contre. C'est ça que j'ai réalisé. Moi, je pensais que tout le monde pouvait être à haut niveau. C'est pas vrai. C'est très difficile.
Il y a par exemple, est-ce que pour toi-même, tu te fixes justement une limite à un certain point ou tu fonctionnes sans limite alors?
Non, pourquoi une limite?
Justement, par rapport à ce profil-là, c'est-à-dire que est-ce que tu es prête à véritablement tout perdre pour atteindre ça? Ouais.
Je sais. Et pourtant, je t'ai dit, hein, j'aime beaucoup les choses que j'ai. Mais je pense que quand tu as la foi, ça aide aussi, tu vois. Donc, je me dis, bah, si je dois tout perdre, c'est que de toute façon, je devais tout perdre, en fait. Que j'ai cette ambition ou pas. Alors, autant avoir cette ambition, autant essayer de faire des trucs, tu vois.
Ouais.
Ma croyance, c'est si ça doit être à moi, c'est à moi. Si ça doit pas être à moi, c'est pas à moi, de toute façon, peu importe ce que je fais. Et c'est ça, je pense, qui me donne une grande puissance et liberté, c'est que je ne corrèle pas mes actions à mes résultats. Du coup, si je dois perdre cette maison ou mes voitures, je vais les perdre. Quoi qu'il arrive. Tu vois, si je dois les garder, je vais les garder quoi qu'il arrive. C'est comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est libérateur, tu vois, de se dire, d'avoir cette croyance. C'est Dieu qui donne ça. C'est pas moi qui ai eu avec mes actions. Donc, de toute façon, je peux pas l'enlever avec mes actions, vu que je l'ai pas eu grâce à mes actions.
Ah, c'est passionnant. Et puis peut-être pour clarifier, quand tu dis que tu es prête à tout perdre, on est d'accord, alors, sauf si c'est pas ça, que c'est pas en mode casino, tu ramènes tout ton argent, tu mets sur le double zéro. Ok, est-ce que tu veux quand même approfondir un peu, parce que on pourrait mal le comprendre.
Oui, t'as raison. comment je pourrais donner un cas concret? Par exemple, tu veux acheter une maison, je sais pas. C'est quoi une maison? Tu habites en France, toi?
Ouais, je suis en région parisienne, mais on déménage en Alsace.
Ouais, bah, c'est quoi une maison chère à Paris? Ils ont une maison super chère.
C'est 3 millions, je sais pas, cher, ouais, minimum.
Oui, parce qu'en Suisse, l'immobilier, c'est rien à voir. Tu rajoutes un zéro derrière. Donc, voilà, ok, 3 millions. Donc, disons, je veux acheter une maison ou une entreprise à 3 millions. Tu vois, donc, c'est cher, c'est chaud. Il va falloir que j'aille à la banque faire un crédit. On va me demander des garanties, ils vont prendre un lien sur le business ou la maison. Enfin, ouais. Donc, tu t'engages beaucoup. OK? Bah, si ce business, il tombe, disons, tu as mis le crédit 3 millions, puis tu fais faillite, on va te dire, Madame Klein, là, excusez-moi, le crédit, là. Tu vois, même si tu es en entreprise, que ton entreprise fait faillite, tu vas quand même, tu vois, on va dire, attends, vous avez une petite maison, on peut faire une échange de la dette. Ouais. Bah, tu vois, donc si tu te plantes sur un business, deux business, trois business, bah, vroom, c'est dans ce sens où je dis tout perdre, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas, bien sûr, pas un one shot que tu vas tout perdre. Ou si tu fais, je sais pas, un crédit pour une maison, bah, pareil, il y a 3 millions, puis tu peux plus payer ta maison, bah, parce que ton business que tu as acheté fait faillite, et puis toi, bah, tu vois, c'est ça, en fait, où quand tu développes, moi, je ne connaissais pas ça, mais quand tu développes beaucoup d'entreprises, beaucoup de biens, beaucoup d'assets, beaucoup d'actifs, que tu joues avec l'argent de la banque, que l'argent, il passe de société à maison à société, eh ben, si tu as plusieurs choses qui tombent en même temps, tu peux effectivement, tout ton truc peut s'écrouler, tu vois.
Okay,
je simplifie, je schématise.
Oui, d'accord, je comprends mieux. Et voilà, c'est un mindset. C'est ça, c'est qu'à un niveau tactique, tu n'es pas là en train de parier sur un jeu de poker et faire un all-in. C'est plus un mindset à un haut niveau qu'au quotidien, aller mettre 10 000 euros dans un outil que voilà.
Ah ouais, non, pas du tout. Mais moi, c'est parce que maintenant, je réfléchis en multimillions, en dizaines de millions. Du coup, quand tu fais un deal, oui, potentiellement, sur un deal, tu peux, entre guillemets, tout perdre parce que le deal, il fait 30, 40, tu vois. Ah. Donc, oui, moi, je peux pas rembourser 40 millions, hein, si le truc, tu vois. Si on vient me voir, on vient me dire, hey, donne-moi 40 millions. Je suis là, no way, tu vois. Donc, bah oui, c'est sûr que...
Ouais.
Oui, tu vois, si la société fait faillite à ce niveau-là, oui.
Margot, comment tu réfléchis, toi, si je te demande si tu as une vision à 10 ans, est-ce que tu es du genre à réfléchir à 10 ans ou tu regardes le marché, tu t'adaptes et tu laisses ton intuition? C'est quoi ta vision à 10 ans, du coup?
Alors, je partage plus mes visions à 10 ans parce qu'après, les gens, ils essaient de faire pareil. Oui, je sais pas, ils essaient de faire, comment on dit, mimétisme de cette vision. Donc maintenant je dis plus, mais oui, j'ai des visions, mais même plus qu'à 10 ans alors, presque sur toute la vie. Après, bien sûr, il y a des choses qui bougent, tu vois.
Toi, tu vas aller jusqu'à réfléchir à l'héritage que tu vas laisser sur Terre? Tu vas jusque là ou pas encore?
Ah oui.
Bah du coup, allons-y si ça te dérange pas. Hein, c'est quoi l'héritage que tu as envie de laisser dans 100 ans?
Alors, je ne veux pas aller dans le détail, mais disons que si il n'y a pas une société que je crée qui a impacté tout le monde, presque tout le monde sur Terre, disons, je ne sais pas combien on sera, non, mais bon, disons 80% des gens sur Terre, et puis qui a vraiment impacté, tu vois, sur un domaine, et que cette société, elle perdure pas après ma mort, bah, pour moi, j'aurais pas réussi, tu vois. Donc, je pourrais être multimilliardaire, mais si la société n'a pas impacté,
C'est quoi ta définition d'impacté?
bah, c'est que ça a changé, ça a facilité, ça a élevé les gens.
C'est genre qui tes modèles, si t'en as, qui est-ce qui t'inspire?
Alors ça, j'avoue, j'ai pas tellement de modèles. Celui qui pourrait venir le plus, c'est Bernard Arnault. Parce que, bon, il est dans le luxe quand même, donc bon. Mais il impacte, et ses sociétés, elles impactent dans le sens où il a des salariés, économiquement, il tient des pays à lui tout seul, hein, économiquement. Donc, après, c'est quelque chose, son activité me touche moins, parce que ça reste du luxe, et c'est pas quelque chose qui, moi, me touche, c'est-à-dire, c'est plus du confort, et puis la cerise sur le gâteau, plutôt qu'une vraie aide. Tu
Pour
vois?
le coup, ça touche par définition pas 80% de la population.
Voilà. Mais celle qui me touche, enfin, qui m'inspire beaucoup, moi, c'est Mère Teresa. C'est trop bizarre à chaque fois comme exemple, mais elle, je me dis, waouh. Tu vois, elle a vraiment impacté énormément de gens. Quand elle est décédée, bah, son association était encore l'association, je sais pas aujourd'hui, mais il y a 5 ans, c'était encore l'association la plus riche et puis la plus active dans le domaine religieux puis chrétien au monde, tu vois. Donc je me dis, t'as juste une meuf qui faisait 1 m 10, quoi. Je veux dire, qui est partie en Inde à la base aider des enfants, puis qui a reçu ça, puis qui a aidé des gens, tu vois. Waouh. Puis elle était super bonne femme d'affaires. Elle levait des fonds, elle mettait de la pression au grand groupe. Ah, elle était pas toute gentille, hein. Elle était dure, hein. Mais je me dis, putain, elle a réussi à lever des millions, tu vois. Juste comme ça, en allant devant les gens. Donc je me dis, la volonté de une personne, tu vois, elle peut être très grande, même si cette personne, elle est petite, et puis elle était malade en plus. Donc
En parlant de ça, est-ce que tu as déjà commencé à avoir des activités philanthropiques ou c'est pas encore le cas?
si, mais je n'en parle pas. Je sais qu'il y a plein de gens, ça énerve. Ils disent, ouais, tu donnes rien et tout. Bon, je les laisse dire, je m'en fous.
Pourquoi t'en parles pas du coup?
Parce que dans ma croyance, tu vois, j'ai peur que si j'en parle, je devienne orgueilleuse. Tu vois?
Et que du coup, ça efface l'altruisme que
Ouais,
tu as voulu au départ.
ouais. Parce que je suis pas sûre. Peut-être j'en parlerai plus tard quand je serai sûre, mais là, je sais que si j'en parle, tu vois, ça serait un peu pour dire, ah, ferme bien ta gueule, toi qui crois. Du coup, je me dis, c'est pas bon. Je peux, ça va. Non, c'est pas bon que je fasse ça. Et je sais que là, j'ai pas les nerfs ou je sais pas, la zénitude pour en parler de manière adulte, tu vois. Mais je donne tout, ouais, je donne tout. Yeah, je donne tout. Vraiment. Donc,
Quelle cause te touche le plus?
alors, j'ai pas. Je sais, tu sais, des fois, je fais les chiens, ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai des copains, ils sont vraiment dans des causes très spécifiques, tu vois, ou des pays spécifiques. Non, moi, je donne alors, c'est à des gens religieux qui, eux, distribuent ensuite, tu vois. Voilà. Ou alors, des fois, dans ma ville, des fois, je donne en direct, parce que là, il y a des gens, tu vois, donc. Mais ça, c'est plus coup par coup quand je vois les gens, tu vois, mais le gros, c'est via d'autres gens qui, eux, distribuent. Parfois, c'est des achats de livres qui sont distribués, tu vois, enfin, des trucs comme ça. Ou alors des dons à des familles. Enfin, toi, je sais ce qui est fait, mais je dis pas fait là-dedans. Enfin, j'ai pas de. Okay. On avait pensé avec Sabina, mon associée, faire une fondation, ce qu'en Suisse tu peux faire, mais c'est une société. Enfin, c'est comme une société. Ou après, t'as le poids de distribuer toi l'argent, choisir qui distribue l'argent. Je me dis, c'est quand même un poids. Et j'ai pas envie de le prendre maintenant, tu vois. Ce poids-là d'attribuer l'argent, de respecter les lois, enfin, de ma croyance à moi pour donner cet argent. C'est vraiment un poids, en tout cas, de donner l'argent. C'est une responsabilité forte, tu vois, d'attribuer, je veux dire. Donc, moi, je l'attribue au gars. Et le gars, il fait ça, il voit des gens, il sait très bien à qui. Et puis, il a cette sagesse, cette connaissance. Ouais. Mieux que moi de savoir distribuer. Donc, c'est ça.
Merci beaucoup, Margot. C'est passionnant. Merci d'avoir accepté de parler aussi de ça. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, sur tes projets, quelle est l'adresse vers laquelle tu les enverrais?
Ils peuvent. Il y a le Instagram Margot Klein, puis la chaîne YouTube Sabina et Margot Klein.
OK. OK. Bon, on mettra les liens en description. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire à celles et ceux qui nous écoutent?
Rien, merci à toi, c'était cool. J'ai parlé de plein de sujets que je parle jamais, donc ça veut dire que tu es un très bon interview.
Ça me touche, merci aussi pour ta confiance et pour tout ce que tu apportes. Et je regrette absolument pas d'avoir t'avoir interviewé, c'était vraiment, vraiment cool. Et c'est vrai que quelquefois, on peut aussi se faire une image de certaines personnes à travers le web, et c'est pas forcément la réalité. Donc voilà, je suis très content d'avoir fait cette session. Merci pour ton temps, merci pour ce que tu apportes. Je pense qu'il y a de quoi réfléchir. Il y a pas mal de nuggets, comme on dit en anglais, pour plein de gens et pour moi aussi. Merci pour ton temps. À très bientôt.